Si l'homme est un animal comme les autres, eh bien sa sexualité reste très différente des autres mammifères, avec des facteurs biologiques et culturels qui lui sont propres. Pourquoi donc la sexualité humaine est-elle si particulière? Quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la grande diversité de notre sexualité? Eh bien, c'est le dossier d'émission cet après-midi avec vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, il y a des guilis-guilis à la une de la science, mais pourquoi donc?
Mais oui, parce qu'on s'intéresse aux neurosciences de la chatouille chez l'homme et chez le rat. Oui, le rat est chatouilleux avec le neurologue Pierre Lemarquis.
Et voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré, réalisée par Stéphanie Texier et qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Les origines et la diversité de la sexualité humaine, ce sera dans quelques minutes dans le dossier avec mes invités, le neuroscientifique Serge Wunsch et le psychiatre Philippe Bruneau. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue.
Mathieu.
Serge Wunsch, est-ce que l'homme dans le règne animal est le seul à avoir une sexualité aussi diversifiée alors? Vous qui avez étudié ça de près.
Disons, sur le point du comportement, on peut trouver d'autres animaux, comme par exemple les chimpanzés pampaniscus, qu'on appelle généralement les chimpanzés bonobos. Mais par rapport à l'aspect, on va dire, culturel, non, c'est la seule espèce qui a une sexualité aussi particulière.
Philippe Bruneau, à quoi ça sert justement à l'espèce humaine, toutes ces sexualités possibles? Alors, il y a une raison particulière du point de vue de l'évolution, par exemple?
C'est peut-être même la dimension humaine de la sexualité. Moi, j'ai souvent, c'est l'érotisme. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que Serge nous en parlera. Les primates sont déjà socialisés et érotisés, mais nous avons quand même beaucoup développé cette dimension de l'érotisme.
Et nous recherchons beaucoup le plaisir. C'est ce qu'on se dira aussi dans un instant, avec donc cette évocation du propre de l'homme autour de la sexualité et les messages des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et comme les humains, les rats sont chatouilleux et prennent du plaisir à être titillés, figurez-vous. En étudiant le cerveau de ces rongeurs, on comprend mieux aujourd'hui à quoi sert l'apparition justement de la chatouille dans l'évolution. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Pierre Lemarquis. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes neurologue et neurophysiologiste associé à l'Université de Toulon. Et cette étude parue vendredi dans la revue Science a de quoi faire sourire. Mais pourtant, chatouiller des rats s'avère très instructif au final pour comprendre notre cerveau. Alors comment être certain d'abord que ce que ressentent ces rats chatouillés ressemble vraiment à des chatouilles où nous on l'entend au sens humain du terme?
Ben, parce qu'ils se mettent à chanter. Ils sont heureux, semble-t-il, quand on les chatouille. C'est une très belle expérience. Ça se passe donc à Berlin. C'est deux savants qui vont chatouiller des rats pour une fois. Donc, vous voyez, ils donnent du bonheur aux animaux. Ils les amadouillent, ils leur chatouillent le dos, le ventre. Pour Philippe Bruneau, la queue également. Et puis, les rats, une fois amadoués, vont se mettre à émettre des ultrasons. C'est des rats mâles, hein, je signale. Donc, les rats se mettent à émettre des ultrasons. Qu'ils émettent habituellement quand ils sont en comportement de séduction ou quand ils jouent entre eux. Alors, ça on le savait depuis déjà quelque temps, mais là on a un enregistrement électroencéphalographique qui permet de montrer que lorsqu'on les chatouille, donc évidemment, ils ont la partie du cerveau qui reçoit le cortex sensoriel, quoi, qui va s'activer, mais il va continuer de s'activer après la chatouille, vous voyez, comme s'il la gardait en mémoire, et surtout il va agir sur la partie antérieure du cerveau, la partie motrice, ce qui va provoquer l'évocation. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, à quoi vont servir ces vocalisations? Certainement à renforcer le lien, peut-être déjà avec l'examinateur. Et puis, c'est des souris mâles, donc ils chantent également au printemps pour attirer les femelles.
On a récupéré le son qu'émettent ces rats quand on les chatouille. Alors, vous l'avez dit, hein, pour le rendre audible pour des humains, il a fallu ralentir la fréquence du son, mais ça donne ça.
Donc ça, c'est un rat qui rigole,
oui.
Axel.
Oui. Et les chercheurs interprètent ça comme un chant de joie, des rires. Vous, vraiment, l'analogie pour vous est bonne?
Mais oui, en tout cas, c'est un proto-langage. Et puis, ils émettent ces signaux quand ils veulent s'accoupler, mais aussi quand ils jouent ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec le côté ludique de la chatouille. Puis, ils ne se contentent pas d'émettre ce son, ils sautent de joie, comme le fait un enfant qui a été chatouillé par un proche ou qui est heureux. Quoi. Ils sont comme nous, ils sautent de joie quand...
Et ils vont chercher la chatouille,
oui,
Axel. Hein.
Oui,
c'est
ils vont la chercher.
C'est peut-être les rats de laboratoire les plus heureux de toute la science qui existe dans le monde.
Ouais.
Oui, c'est pour ça, c'est une merveille. C'est quand même un grand changement d'idée dans la science où on va faire plaisir aux animaux. Quand même.
Ouais. Il y a la vidéo sur le Facebook de la Tête au Carré, d'ailleurs, pour ceux qui
souhaitent
la voir.
On voit les rats qui viennent chercher leur chatouille. Alors, la question qui vient après, c'est à quoi ça sert évolutivement d'être chatouilleux et à quel moment c'est apparu dans le règne animal ?
Alors, pour que ça soit visible dans le cerveau des rats, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien et qui a son utilité, parce que c'est vraiment la chatouille, ça va resserrer le lien entre les parents et les enfants. C'est un petit peu la même chose qu'une musique ou qu'un proto-langage qui va permettre à un groupe de se sentir uni, donc plus fort. C'est la même chose que les pouillages chez les chimpanzés, les gorilles. Donc c'est un comportement de toilettage qui dit je ne suis pas agressif, je suis ton ami. Et puis après, on peut espérer un retour d'affection.
Philippe Bruneau voulait réagir.
Oui, nos deux invités ont des choses à dire. Philippe d'abord.
Oui, à la fois, merci Pierre de toutes ces explications. Moi je crois que d'abord il y a la notion peut-être d'humour chez le rat, hein, on n'en parle pas trop.
L'humour du rat, oui c'est vrai, on n'en parle pas souvent.
L'humour du rat, et puis c'est vrai que la chatouille, il y a une dimension érotique de la chatouille, c'est dans les jeux amoureux, moi je crois que ça, c'est très agréable, et ça évoque quelque chose dont on parlait avec Serge Vinch il y a très peu de temps, il y a une heure, on parlait du toilettage, alors ça t'évoque peut-être quelque chose.
Serge Vinch.
Oui, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le toilettage, les chatouilles, les caresses, c'est-à-dire toutes les stimulations du corps, c'est quelque chose qui existe chez tous les mammifères. Et alors là où c'est extrêmement curieux, c'est que chez l'être humain, dans notre culture, eh bien, c'est quelque chose qui a presque disparu, puisque dans notre culture, c'est vraiment, il n'y a que dans certaines circonstances très particulières qu'on se touche ou qu'on se caresse.
Et justement, chez les rats, les chercheurs notent la même chose, c'est-à-dire que quand le rat est stressé ou de mauvaise humeur, il n'est pas réceptif à la chatouille, Pierre Lemarque. C'est comme ça qu'on peut le dire ?
Oui, c'est-à-dire donc ils ont pris. On s'en rend compte nous-mêmes. Si on est mal décidé, on n'a pas envie d'être chatouillé. Et pour les rats, donc ils les ont exposés la nuit à des lumières. Ils n'ont pas pu dormir. Le lendemain, ils n'avaient pas du tout envie d'être chatouillés. Donc l'humeur retentit sur l'acceptation ou non des chatouilles. Quoi.
Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre une chatouille et une caresse pour des rats ?
Ben il y a la chatouille, il y a un petit effet de surprise, c'est quelque chose donc qui peut aller aussi avec les mécanismes de l'humour entre autres, alors que la caresse c'est quelque chose qui arrive plus lentement, qui va peut-être pas provoquer la même chose, ça va être plus doux, ça va être moins fort quoi.
Alors un humain ne peut pas lui-même se chatouiller, est-ce qu'un rat peut se chatouiller lui-même?
S'ils viennent vers le doigt de l'expérimentateur, là je pense que c'est Fibreno qui est expert en la matière, qui pourra nous dire si les rats peuvent se chatouiller eux-mêmes.
Fibreno.
Je ne suis pas expert en chatouille. non, mais ça, il y a deux ou trois phénomènes comme ça que récemment on a tenté d'expliquer. C'était le phénomène du bâillement. Il y a eu des explications très récentes et vous en avez parlé. La chatouille. Alors on a l'impression que c'est des choses mineures parce que on se dit quelle utilité, et je crois que Pierre Lemarque vient bien de l'évoquer, ça, il y a un lien, par exemple, dans le lien, dans l'élevage du lien familial, par exemple. Alors, en tout cas, on le voit chez les humains, ça crée du lien, qu'il soit érotique ou non, la chatouille, en tout cas, un élément relationnel interhumain. C'est pour ça que ça se fait pas seul.
Oui, c'est ça. Mais pourquoi Pierre Lemarque, par exemple, on ne réagit pas au chatouille lorsqu'on est de mauvaise humeur? Pourquoi ça influence, justement, le chatouiller, l'humeur?
Là, on peut avoir que des suppositions, mais vous savez, par exemple, les gens qui sont les créateurs, mais vraisemblablement aussi, quand on rumine des idées noires, on se ferme au monde extérieur. Donc, tant qu'on est en train de résoudre un problème de créativité ou d'idées noires, on a tendance à ne pas vouloir d'influence extérieure, de stimuli extérieurs. Donc, ça peut être une des raisons, mais pour le moment, c'est juste une hypothèse.
Pierre Lemarque, vous pensez qu'il faut aller plus loin dans l'étude de la chatouille? Pourquoi pas proposer des séances de chatouille pour être de meilleure humeur? C'est un intérêt vraiment scientifiquement d'aller plus loin là maintenant qu'on sait que le rat est chatouilleux lui aussi?
Ah ben, bien sûr, parce que le but quand même de la science, c'est d'arriver à nous rendre l'existence plus agréable, plus heureuse. Donc si on arrive à prouver l'intérêt de la chatouille, on aura fait un grand pas vers le bonheur.
Ouais, Philippe Bruneau, chatouillologue officiel.
Alors, il y a eu une vague qui se fait plus aujourd'hui de ce qu'on appelait la gélothérapie. En grec, gélos, oui. Ça veut dire le rire. Et moi j'ai participé à des groupes comme ça, c'est tout à fait étonnant. Alors on cherchait des éléments déclencheurs du rire, mais là, plupart du temps, d'ailleurs, en utiliser la chatouille. Et le rire, alors qui est d'abord communicatif, mais qui est surtout extrêmement relaxant, dispensateur d'énergie, amène à des états de détente profonds. Mmh. Et je pense qu'il y a une voie thérapeutique qui n'a jamais été vraiment utilisée, qui je crois est intéressante.
Serge Hunsch, vous êtes convaincu également de l'intérêt d'aller plus loin dans l'étude de la chatouille ?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de travaux d'ailleurs qui montrent combien le fait de stimuler le corps, c'est quelque chose qui apporte énormément de bienfaits, à la fois sur le système immunitaire, à la fois sur le lien d'attachement, sur les capacités attentionnelles. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont, depuis quelques années, qui montrent vraiment l'intérêt de tout ce qui est la stimulation du corps.
Ça se concilie avec Axel, on commencera la journée dorénavant avec une séance de chatouiller avec toute l'équipe. Voilà. On le fera en collectif en plus,
c'est
sera beaucoup plus drôle. Merci beaucoup Pierre Lemarquis, donc publication très sérieuse qui est sortie dans Science vendredi dernier. Et je rappelle Pierre Lemarquis que vous êtes également l'auteur d'un livre, L'empathie esthétique, qui est sorti aux éditions Dit Jacob. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage.
Merci, bonne journée.
Et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs chinois annoncent les premiers essais thérapeutiques contre le cancer à l'aide de la technique CRISPR-Cas9. Dans une publication parue ce matin, l'équipe du professeur Lu Yu de l'université de Chengdu annonce avoir administré le 28 octobre dernier des cellules génétiquement modifiées à un patient souffrant d'un cancer fulgurant du poumon. Ces cellules ont été prélevées directement dans son sang, modifiées génétiquement afin de lutter plus efficacement contre les tumeurs, puis enfin injecté dans ses poumons. Aucun résultat n'a encore été dévoilé, mais l'équipe précise que plusieurs injections seront certainement nécessaires. Les fientes des oiseaux migrateurs refroidissent l'atmosphère de l'Arctique. Cette drôle de conclusion nous vient du Canada, où des chercheurs ont observé que chaque année, des milliers d'oiseaux peignaient de leur guano blanc les rochers noirs de l'Arctique. Ces déjections contiennent de l'ammoniac en grande quantité, qui, une fois relâché dans l'atmosphère, va s'associer avec l'acide sulfurique de l'eau pour favoriser l'apparition de nuages de basse altitude. Et ces nuages joue un rôle important pour refroidir l'atmosphère en reflétant la lumière du soleil. Et puis enfin, le séisme de magnitude 7.9 qui a secoué la Nouvelle-Zélande lundi a fait glisser une partie du pays de plus de 10 cm vers le sud-est. C'est ce qu'affirment les sismologues sur place après les premières mesures. Un glissement horizontal de la faille de Kekerengu, où la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque australienne qui englobe la Nouvelle-Zélande de 4 cm par an. Sur place, plus de 1200 touristes sont encore coincés et les premiers navires de rapatriement sont arrivé ce matin. Allez, nous parlons de l'origine et de l'histoire de la sexualité humaine.
Il ressemble à Pierre Clémenti, marche comme une panthère noire. Comme on ralentit, puis s'écroule sur un accoudoir. En masquant sa dyslexie dans la lumière bleutée du soir, il te parle et te sourit à la manière d'une superstar. David Palmer, David Palmer. David Palmer, David Palmer.
David Palmer, l'escope à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Les origines et la diversité de la sexualité humaine, sujet donc de notre dossier cet après-midi avec mes invités Serge Wünsch et Philippe Bruno. Serge Wünsch, vous êtes chercheur en neurosciences, chargé de cours en sexologie. Vous avez publié en 2014 aux éditions L'Esprit du Temps « Comprendre les origines de la sexualité humaine, neurosciences, éthologie, anthropologie ». Avec en couverture, c'est un couple de chimpanzés ou de bonobos là ?
Ce sont des bonobos.
Ce sont des bonobos hein, qui incarnent aussi bien justement la sexualité des primates. Et puis Philippe Bruno, vous êtes psychiatre et sexologue et vous êtes l'auteur entre autres avec Laetitia Corinne, de Sex Story, la première histoire de la sexualité justement en bande dessinée aux éditions Les Arènes. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Donc on se retrouve comme chaque mois dorénavant autour de la sexualité, Philippe, pour plonger effectivement, oui, à la fois dans les origines mais aussi dans la spécificité et la diversité de la sexualité humaine. Hein.
Oui, puis on essaie de comprendre par cette mensuelle là, sur la sexualité, ouais. On essaie de comprendre qu'en fait que la sexualité dont on parle partout, eh bien d'une certaine façon elle n'est jamais expliquée. Il n'y a pas d'éducation à la sexualité, à part la tête au carré, on n'explique pas directement ouais. La sexualité et ça montre d'abord c'est du ressort de la science, que ce soit des aspects biologiques, psychologiques, sociologiques. Il y a des choses à comprendre, la sexualité elle semble intuitive et on va le voir aujourd'hui, notamment en essayant de comprendre ses origines, eh bien qu'il y a énormément de choses du côté de facteurs très anciens, archaïques de nos lignées animales, et puis beaucoup d'apprentissages qui sont la sexualité des humains.
Ouais, et c'est ce travail d'ailleurs, Serge Wünsch, remarquable hein, que vous avez fait depuis des années maintenant. Effectivement, pour comprendre la sexualité humaine, il faut d'abord passer par l'animal, au fond, c'est ça la méthode hein ?
Eh bien, effectivement, c'est l'animal qui va nous apprendre beaucoup de choses, puisque on peut dire que l'essentiel de la sexualité humaine, elle provient de ce qui existe chez l'animal. Il y a eu des modifications, mais l'animal, c'est vraiment l'origine de notre sexualité.
Oui, mais alors quels animaux est-ce qu'on étudie pour la sexualité humaine ? Il faut en choisir quelques-uns, j'imagine. Est-ce que logiquement, on choisit les plus proches de nous, c'est-à-dire les primates non humains ?
Alors, dans un premier temps, ce qui est plus intéressant, c'est d'étudier les mammifères, puisque nous sommes des mammifères et qu'on va partager énormément de facteurs qui sont communs. Et donc, ce qui est intéressant à faire, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que la sexualité, elle a évolué depuis les mammifères qui sont les moins corticalisés, qui sont les plus simples,
et puis de voir... C'est-à-dire lesquels ? Citez-nous quelques espèces.
Eh bien, en général, ce sont les rongeurs, hein, qui est l'espèce qui est la moins corticalisée, et où finalement, les facteurs de la sexualité sont les plus visibles. Les facteurs de la sexualité qui sont spécifiquement organisés pour la reproduction.
Ouais. Quand vous dites les plus visibles, vous faites allusion à quoi exactement ?
Alors, ce qu'on observe qui est vraiment très typique chez la plupart des mammifères, c'est des comportements qui sont vraiment orientés spécifiquement pour la reproduction. C'est-à-dire, c'est ce qu'on observe si on a des animaux domestiques, ce qu'on observe dans les animaux, dans les fermes, etc. C'est la copulation hétérosexuelle.
Oui, ça c'est vraiment une chose quasi universelle dans le règne animal, à quelques exceptions près, évidemment.
Enfin, ce qu'on observe au niveau neurobiologique, c'est que tout ce qu'on connaît, tous les facteurs neurobiologiques, les structures, les facteurs, tout est organisé spécifiquement pour la copulation hétérosexuelle. Ouais. Quand il y a des variations, c'est parce que certains de ces facteurs ont été modifiés ou leur influence s'est relâchée.
Ouais. Alors,
Philippe
Bruno.
Et là, on parle en fait d'une certaine façon d'une fonction reproductrice.
C'est ça.
Est-ce qu'on a déjà, si on va comme ça chez les mammifères dits inférieurs, on les appelait comme ça autrefois, est-ce qu'on a déjà des comportements qui sont en dehors de la reproduction ?
Alors, lorsqu'il y a des comportements qui sont en dehors de la reproduction, en général, ils vont souvent ils prennent place parce qu'il y a des circonstances un peu particulières. Par exemple, quand des animaux ils sont extrêmement excités sexuellement, par exemple, ils sont prêts à copuler avec n'importe quoi. Il suffit de leur mettre, par exemple, une peluche à côté, et puis on va voir que l'animal va copuler avec la peluche. Mais là, c'est pas tellement parce qu'il est organisé pour copuler avec la peluche, c'est parce que l'excitation sexuelle est telle que pratiquement n'importe quel élément qui va s'approcher un peu de son qui ressemble un petit peu à son espèce, ça va déclencher tout un ensemble de réflexes.
Oui, dans des situations particulières de groupe, par exemple aussi chez les primates, on peut aussi avoir des relations sexuelles pour autre chose que de la reproduction, dans des cas de stress, par exemple, de conflits.
ce qu'on observe chez certains primates, effectivement, c'est que la sexualité peut avoir un autre but que la reproduction. Ça peut être pour apaiser les conflits, ça peut être pour faire de l'échange de nourriture, ça peut être pour de la soumission, etc. C'est vrai que la sexualité peut, dans certains cas, avoir un autre objet que la reproduction.
Philippe Bruneau, toujours l'éthologie, hein, c'est vraiment une discipline qui revient à chacune de nos émissions précisément sur la sexualité. Donc l'étude animale, elle est absolument essentielle pour comprendre l'humain. Hein.
Oui. L'étude du comportement sexuel, il passe d'abord par les phases dont on parle. Il a été reproducteur il y a très longtemps, même si on s'est dégagé de cela. En grande partie, quand on a séparé aujourd'hui la sexualité et la fécondité, ce qui permet qu'on identifie beaucoup mieux des comportements qui sont de l'ordre de la sensualité, de l'érotisme. Mais, je veux dire, lorsque, par exemple, il n'y avait pas de contraception dans les siècles précédents, mais très souvent, on était, je pense, englué dans un comportement reproducteur pour une grande partie. Ouais. C'est une liberté de nos époques de pouvoir vivre librement ce qu'on appelle la sexualité indépendamment de la fécondité.
Ouais. Donc Serge Wünsch, ce qu'on comprend bien quand même, c'est que autour de la sexualité animale, il y a avant tout cet instinct de reproduction qui domine.
Tout à fait. Plus les animaux ont un cerveau qui est simple, hein, c'est-à-dire qu'ils sont le moins corticalisés, plus on a les facteurs, on va dire, instinctuels qui sont extrêmement importants et qui vont faire que le comportement va s'orienter vers la copulation hétérosexuelle. Et quand on regarde bien en détail, on s'aperçoit qu'on a tout un ensemble de facteurs très précis qui font que les animaux vont copuler. Et la finalité, c'est vraiment déposer le sperme dans le vagin pour permettre la fécondation.
Alors, je crois intéressant le terme que vous avez utilisé, Mathieu, le terme d'instinct. Spontanément, la plupart des gens ont cette idée que s'il y a bien quelque chose d'instinctuel, comme manger, boire, dormir, c'est la sexualité, oui, avec derrière l'idée de reproduction de l'espèce. Est-ce que cette notion d'instinct, Serge Wünsch, est-ce qu'on peut la maintenir au fil de l'évolution? On peut en parler peut-être chez les mammifères inférieurs. Est-ce qu'elle disparaît un peu au profit de l'apprentissage?
Alors effectivement, ce qu'on observe, c'est que plus on va aller vers des mammifères qui sont corticalisés, plus le cerveau va se développer, moins les facteurs instinctuels vont avoir d'importance. Alors si on veut donner par exemple un exemple, pour les personnes qui ont des animaux domestiques, c'est quelque chose qui est extrêmement visible. On a par exemple ce qu'on appelle la lordose, le comportement vraiment tout à fait typique, surtout chez les femelles.
C'est le creusement, c'est ça, du dos et...
Voilà, c'est le creusement de dos. Alors, les gens, par exemple, qui ont des chats et des chattes, alors là, c'est vraiment extrêmement visible. Quand les chattes, elles sont en chaleur, alors c'est extraordinaire parce que c'est la seule espèce, d'ailleurs, je crois, où ce réflexe, il peut se déclencher sans que le mâle ne commence à monter la femelle. C'est-à-dire que quand la chatte est en chaleur, on va voir qu'elle est en train de creuser son dos et elle va présenter son vagin, ses parties génitales, pour faciliter la pénétration par le mâle.
Mais ça, on l'observe aussi chez les rats, par exemple.
Ah oui, ça c'est un comportement qui existe chez toutes les femelles des mammifères. Ouais. Sauf que ce qui est extraordinaire chez la chatte, c'est que ce réflexe, il peut se déclencher sans que le mâle commence à monter. Alors que chez le rat, il faut le mâle commence à monter pour que le réflexe se déclenche. Ouais. Alors que chez la chatte, c'est quelque chose qui... Bon, parce que d'une espèce à l'autre, il y a des variations. Hein. Tous les animaux n'ont pas exactement le même comportement sexuel. Et chez la chatte, c'est très visible. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'ils peuvent voir s'ils ont des animaux domestiques. Ce réflexe de lordose qui est vraiment, si on veut, l'instinct sexuel chez la femelle des mammifères.
Philippe Bruneau.
Et alors, ce qui est amusant, c'est peut-être pas une métaphore, mais lorsque vous évoquez le réflexe de lordose, ou du moins plutôt la lordose qui provoque un réflexe érecteur chez le mâle, et il y a quelquefois chez le rat, je crois qu'il y a il y a quelque chose de très spécifique, hein, qui est de ce déclenchement. Chez les humains où ça n'existe plus de la même façon, eh bien, on a des comportements sociaux. Il y a qu'à voir de quelle façon une partie des femelles humaines ont des postures de d'échancrure des reins avec une espèce de mise en valeur de la fesse qui est tout à fait humaine et récente, qui est en fait un signal d'appel. Alors, est-ce que ça n'existe plus dans notre cortex comme un signal excitateur? C'est pas exclu, alors qu'il n'y a plus le réflexe érectile obligatoire comme on trouve chez les mammifères inférieurs.
Serge Wünsch.
Alors, ce qu'on observe, c'est que ce fameux réflexe de lordose, qui est, alors il faut savoir que c'est extrêmement important parce que dans beaucoup d'espèces, si les femelles ne se mettent pas en leur dose, le mâle il n'arrivera pas à copuler. C'est-à-dire oui. que la position
c'est
du vagin.
C'est une question de praticité aussi.
Hein. Voilà, c'est vraiment extrêmement fonctionnel. Hein. Oui. Si la femelle n'est pas bien positionnée, la pénétration ne peut pas se réaliser. Et donc ce réflexe qui pourtant est absolument fondamental, eh bien ce qui est très curieux, c'est qu'à partir des hominidés, eh bien on observe que les femelles ne se mettent plus en position de leur dose. C'est-à-dire que là il y a eu un changement.
Une bascule, oui.
Il y a eu une bascule. On est passé d'une
autre sexualité.
Voilà, on est passé d'une sexualité qui est réflexe instinctuel vers une sexualité qui est apprise.
Sauf dans les couvertures de magazines.
Marcel nous dit boire sans soif et faire l'amour en toute période sont bien les rares situations qui nous séparent du monde dit animal. C'est la suite de notre discussion justement dans la deuxième partie de cette tête au carré avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Waterhouse avec Catchy sur France Inter pour parler aujourd'hui des origines et de la diversité de la sexualité humaine avec Serge Wunsch et Philippe Bruno et vos messages qui arrivent sur franceinter.fr. D'abord, Jules nous dit ceci. Enfin, un scientifique qui classe les êtres humains chez les mammifères, donc dans le règne animal. Serge Wunsch, c'est bon de le rappeler de temps en temps, non?
Oui, parce que l'être humain, c'est un animal. Hein.
Oui. Et on a tendance à l'oublier, hein, se placer toujours au centre des choses. Maud nous dit, je trouve dommage qu'on dise que dans les sociétés humaines actuelles, les stimulations corporelles non sexuelles, on parlait des chatouillis tout à l'heure, les câlins, aient disparu, c'est absolument faux. Il suffit de voir les ados allongés en tas sur l'herbe, des parcs urbains ou sur les plages, l'envie de se serrer les uns contre les autres. Philippe Renaud, on n'a pas perdu
tout à fait ça quand même. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai et on est plus libre par rapport à ça. Dans les sociétés traditionnelles, il y a aussi des comportements qui peuvent se voir. On voit très bien dans les sociétés méditerranéennes, il y a des comportements intermâles ou interfemelles. Mais c'est vrai que c'est sans commune mesure avec les comportements d'épouillage, les comportements de ce qu'on appelle le grooming, par exemple, chez les primates. Il n'y a pas de soins corporels qui maintenaient un lien vraiment très important. Ensuite, ça se fait, ce qui est souligné par l'auditrice, à la période des ados, dans des périodes où il y a des liens corporels forts qui se nouent. Dans le reste de la vie, ça se fait très peu.
Serge Wunsch, Gisèle demande, est-ce que les femelles animales ont elles aussi une sensibilité clitoridienne? J'ai appris récemment, dit-elle, que le clitoris humain était le seul organe sans autre fonction que le plaisir. Et c'est vrai, ça.
Alors, en fait, ce qu'on observe, c'est que le clitoris, en fait, et le pénis, ils ont originellement une fonction qui est extrêmement spécifique, c'est de déclencher un certain nombre de réflexes sexuels. Par exemple, le clitoris, dans les espèces de mammifères ancestrales, sa fonction, c'était de déclencher le réflexe ovulatoire. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait la copulation, c'était les sensations qui étaient perçues par le clitoris qui allait déclencher l'ovulation. Et donc ça permet d'optimiser la copulation puisque l'ovule va être libéré juste au moment où le sperme est déposé dans le vagin. Donc ça permet vraiment de synchroniser les deux éléments. Et donc ça facilite la fécondation. Et ce qu'on observe aussi, c'est que le clitoris, et le pénis d'ailleurs, c'est aussi des structures qui vont permettre d'activer ce qu'on appelle dans le cerveau le système de récompense. C'est ce qui va faire que nous, on va percevoir des sensations de plaisir. Et chez les animaux, ça va déclencher tout un ensemble d'apprentissages sexuels. Et c'est ce qui va permettre d'optimiser la copulation.
Alors, parlons de l'olfaction et des phéromones, essentiels justement dans les différents comportements sexuels. Alors, l'olfaction, évidemment, on l'observe chez nos animaux par exemple, hein.
Ah oui, alors là, les phéromones, c'est quelque chose dont il faut absolument parler parce que c'est le mécanisme fondamental, non seulement chez les mammifères, mais chez tous les animaux. Ouais. La communication chimique, c'est ce qui va permettre d'échanger tout un ensemble de signaux sur la sexualité, sur l'agression, sur la territorialité, sur l'état de santé, etc.
Même chez l'homme ?
Alors,
peut-être.
Par rapport à l'homme, on va répondre juste après, avant de dire, parce que je pense que c'est vraiment important
c'est
de bien
distinguer de quoi on parle, justement.
De bien distinguer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication chimique, les phéromones sexuelles, c'est vraiment absolument fondamental chez pratiquement toutes les espèces animales. C'est quelque chose qui est le mécanisme le plus fondamental pour la communication. Mais justement, ce qu'on va observer, c'est qu'à partir là aussi des grands primates, à partir des hominidés, eh bien on va avoir ce qu'on appelle l'organe voméronasal, qui est une structure qui est dans le nez, et qui est une structure extrêmement importante pour distinguer et détecter les phéromones. Cette structure, elle n'est plus fonctionnelle. Et on a aussi à peu près 90% des récepteurs qui détectent les phéromones qui vont être altérés, alors à la fois dans cet organe voméronasal et puis aussi dans d'autres structures qui sont localisées dans le nez, comme l'épithélium olfactif. Ce qui veut dire que chez l'être humain, on a quasiment plus de détection de phéromones. Oui. Et donc là encore, c'est un changement majeur qui va faire que notre sexualité, elle n'est plus aussi instinctuelle que celle des autres mammifères.
Et justement, inconsciemment, on n'a pas encore recours à ces phéromones pour pouvoir justement échanger et communiquer sexuellement ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que quand on fait des expériences, il y a encore un effet résiduel. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup d'effets résiduels de ce qui existait chez les autres mammifères. On a encore des effets résiduels de l'influence des hormones, on a des effets résiduels des phéromones. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça n'a plus le même impact que ce qu'il y a chez les autres animaux. C'est-à-dire que chez l'être humain, c'est devenu secondaire, ces facteurs.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur 20 minutes TV en 2012 sur les phéromones parties. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui consiste justement à choisir son partenaire en fonction de son odeur. Voilà en quoi ça consiste.
Je suis Sam, je cherche une fille avec qui partager ma vie. Je dois donc dormir avec un t-shirt blanc en coton 3 jours de suite, sans mettre de déodorant. Je mets tout ceci dans un petit sac zippé avec mon numéro dessus et pendant la soirée, toutes les filles vont sniffer collectivement mon t-shirt. Elles noteront ensuite mon numéro sur un papier et celles qui souhaitent me rencontrer peuvent me rencontrer. Et c'est pareil de mon côté. Elles mettent t-shirt blanc, je sniffe, numéro, tac.
Attends, mais tu vas pas faire un truc pareil quand même?
Bah si, pourquoi pas?
Pourquoi pas, mais t'as vu le machin là? T'imagines un peu là, tu renifles une nana et tout d'un coup...
C'est complètement con. Oui, non, t'as...
Voilà, les phéromones parties, Serge Wünsch. Alors, c'était aux États-Unis que ça a commencé. C'est en train d'arriver en France, paraît-il. Je ne sais pas si ça se développe beaucoup. Mais en tout cas, voilà, une tentative de restaurer peut-être ces instincts oubliés, non?
Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que... Non seulement on peut détecter des phéromones, mais surtout on a notre système olfactif qui va détecter des odeurs. Alors c'est deux mécanismes qui sont relativement distincts, et ce qu'on observe, c'est que l'être humain, il apprend énormément à distinguer des odeurs. Alors que ce soit les mères qui vont apprendre à reconnaître les odeurs de leur bébé, que ce soit les partenaires sexuels qui vont apprendre à reconnaître les odeurs de leur partenaire, oui. Mais ça c'est pas le même mécanisme que les phéromones, parce que les phéromones, leur spécificité, c'est des structures qui sont préorganisées dans le système nerveux, et les phéromones vont déclencher tout un ensemble de mécanismes, par exemple d'apprentissage sexuel, qui sont préorganisés dans le système nerveux. Donc c'est hautement spécifique. Alors que l'apprentissage des odeurs, ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins spécifique, et on peut apprendre des odeurs pour un peu n'importe quoi. Alors mais que les odeurs, c'est spécifique à des mécanismes
sexuels. On choisit
sexuels.
Nos partenaires aussi en fonction de leur odeur. On sait à quel point c'est important quand même.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on, c'est même quelque chose qui va être discriminant. On se plaît de loin, il y a une silhouette, on s'approche. Et puis, quelquefois, il va y avoir quelque chose de l'ordre de « je peux pas le sentir » ou quelque chose qui est très, très proche. Là, ce qu'évoquait Serge, c'est la distinction. Les phéromones ne sont pas des odeurs. Populairement, ce qui a été évoqué d'ailleurs dans ce reportage, c'est l'idée... moi j'allais dire du filtre d'amour, il y a l'idée un petit peu symbolique qui existe depuis le Moyen-Âge, je vais enfin trouver cette espèce de déclencheur de l'amour chez l'autre que je veux séduire. On a l'impression que ça passe par les odeurs, d'ailleurs les grands parfumeurs parlent de phéromones. Le jour où on identifiera, alors il y a des substances qui ont été dites phéromones chez les humains, mais on est extrêmement réservé, c'est-à-dire que c'est pas
le filtre d'amour, quoi,
c'est finalement. Pas tout à fait les mêmes fonctions. Par contre, ce qui était évoqué là dans ce reportage, c'était la reconnaissance des androgènes, exactement comme ça s'est fait chez les bébés dans une maternité où le bébé reconnaît spécifiquement l'odeur de la mère. Ça, c'est pas des phéromones, ce sont des odeurs. Et je crois qu'on va au contraire tisser des liens avec des gens avec qui on est odeur compatible.
Oui, c'est ça, bien sûr.
On voit la version que l'on a envers certaines personnes qu'on ne pourrait pas approcher de près.
Ouais. Il y a une question de Jean, tiens, on parlait de la lordose tout à l'heure, donc cette courbure du dos. Il nous dit à propos de cela, chez les humains, ce réflexe expliquerait-il que les mâles trouvent plus sexy les femmes qui marchent avec des talons hauts? Ah tiens.
Mais oui.
Puisque là, du coup, il y a une cambrure qui opère. Hein.
Alors, il y a une distinction à faire entre le réflexe de lordose, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il va y avoir la stimulation des croupes, de la croupe de la femelle, ça va déclencher le réflexe, et donc il va y avoir cette position, cette courbure du dos, cette présentation.
Chez
la plupart des mammifères, sauf les hominidés. Et puis le fait aussi qu'on va... Alors ça, c'est des mécanismes innés. Et puis il y a aussi tous les apprentissages sexuels qui vont faire que, suivant la culture, eh bien, il y a des signaux visuels qui sont appris. Et donc, par exemple, dans notre culture, on va apprendre tout un ensemble de signaux, par exemple, par rapport aux fesses, etc. Mais il faut savoir que dans d'autres cultures, les signaux visuels vont être tout à fait différents. Chez les Fulani, par exemple, qui vivent au Sahel, c'est le visage qui est très important. Ouais. Et donc, les gens vont mettre, par exemple, des peintures faciales pour augmenter l'attractivité du visage. Ouais. Dans d'autres sociétés, c'est par exemple, on va augmenter la taille du cou. C'est les fameuses femmes en Birmanie qui ont qu'on appelle les femmes girafes, etc.
Absolument.
Donc là, on voit que c'est l'aspect culturel qui va faire qu'on apprend des signaux sexuels.
Alors là, voilà, vous avez prononcé le mot qui nous emmène sur la dernière partie de ce propos. C'est que la sexualité humaine, au fond, ce qui la caractérise par rapport au reste du règne animal, c'est la culture, absolument. Et c'est ce qui fait aussi que nous avons dévié hominidés au-delà de la reproduction, hein.
Voilà, il y a donc cet aspect culturel, mais il y a encore un troisième élément dont il faut parler, c'est l'influence des hormones. Parce que les hormones aussi, elles ont un rôle extrêmement important chez la plupart des mammifères. Et ce qu'on observe, c'est que chez l'être humain, on a les hormones n'ont plus tout à fait la même importance. Alors ça se voit beaucoup. Alors là aussi, si les gens ont des animaux, beaucoup d'espèces sont ce qu'on appelle sont en chaleur. On s'aperçoit que il y a des périodes où les animaux vont tout à coup être en chaleur, vont avoir vraiment un comportement extrêmement manifeste.
Et là, il y aura de la sexualité.
Et c'est les hormones qui contrôlent cette période de chaleur. Ouais. Et en dehors de cette période de chaleur, les hormones, elles inhibent la sexualité. Ouais. Alors que chez l'être humain,
les choses sont bien faites.
C'est extrêmement bien fait. C'est pour ça qu'on a un véritable comportement de reproduction.
Chez les jeux de chez les humains, on aurait besoin de ça de temps en temps pour nous calmer un peu, non? Parce qu'on peut faire l'amour toute l'année et en dehors de la reproduction.
C'est ça. Et alors que chez l'être humain, on s'aperçoit que les hormones, elles n'inhibent plus la sexualité. Ouais. C'est-à-dire que la sexualité peut avoir lieu toute la période, pendant toute l'année et durant toute la période des cycles hormonaux.
Peut-être. Alors, c'est vrai que l'influence hormonale est très faible chez les humains. On sait qu'il y a quelques cycles. C'est peut-être quelque chose qui explique certaines baisses du désir et que les hommes ou les femmes peuvent remarquer. Surtout, les femmes le remarquent. Quelquefois en fonction du cycle, quelquefois en période des périodes de l'année. Mais enfin, en général, non.
Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer évidemment le plaisir et puis la culture autour de notre sexualité humaine avec les questions auxquelles vous répondez, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Is sweet, make you want to move, you dance and feel to the rescue.
Shining avec la voix de Bebel Gilberto sur France Inter.
Vous avez souvent prétendu que votre femme vous avait sauvé de la folie. Cela est-il exact?
Oui, tout à fait, Pascal. C'était le moment où je peignais les spectres du sexapil. Et j'étais persécuté par une espèce de complexe d'impuissance. D'ailleurs, le sexe féminin m'a paru toujours une chose très remplie de portes, d'antichambres, une chose très obscure et très mystérieuse. Et à ce moment-ci, cette espèce de complexe d'impuissance avait détourné ma libido dans des vraies folies érotiques, la plupart se finissant comme Louis II de Bavière. D'ailleurs, je me déguisais toujours en roi pour me masturber, c'était une de mes vices. Et si je n'ai pas trouvé Gala avec laquelle j'ai découvert l'amour, qu'on peut dire, normal, c'est certain que 2 ans plus tard, toutes mes idées délirantes auraient dépassé les mesures de la pure paranoïa et seraient devenues vraiment de la psychopathologie pure et simple. En fait.
Philippe Brenneau, que pensez-vous du patient Salvador Dali, entendu à l'instant?
Je trouve magnifique d'abord à l'époque où il parlait, parce que doit être dans les années 70 ou quelque chose comme ça.
61.
Ouais. D'oser parler de masturbation, d'ailleurs c'est un mot qu'il ne devait pas se dire souvent, c'était sûrement très subversif, et il osait, bon, c'était son discours habituel sur la paranoïa critique, et en définitive, non, il dit de quelle façon les pulsions, et il l'a écrit combien de fois dans un très bel écrit de Salvador Dali qui s'appelle Le journal d'un génie, dans lequel il exprime bien l'importance de la pulsion sexuelle dans la sublimation de son art.
Serge Wünsch, l'évocation de la masturbation. Alors, on n'est pas obligé de s'habiller en roi pour se masturber. On n'est pas obligé d'être humain non plus pour se masturber quand même. Même s'il y a cette recherche du plaisir qui semble typiquement humaine, en tous les cas, dans la sexualité animale aussi, il y a de la masturbation.
Oui, il y a la masturbation aussi, sauf que dans les animaux, par exemple, comme les rongeurs, si on a des animaux qui vont se masturber, ça va être, par exemple, parce qu'il y a justement une tension sexuelle qui est extrêmement forte, qu'il n'y a pas de partenaire, et donc l'animal va se masturber, on va dire, un peu dans une espèce d'exutoire. Ouais. Alors qu'à partir du moment où on arrive chez les grands primates, là, on observe qu'on peut avoir des comportements qui vont être plus spécifiquement orientés vers ce qu'on peut appeler la recherche du plaisir.
Ouais.
Et chez l'être humain, là, ça devient vraiment très manifeste.
Ouais. Alors c'est ça, l'être humain par rapport au reste du règne animal, c'est quand même aussi cette quête du plaisir qui le distingue et qui l'a fait sortir un petit peu de ses rails d'une sexualité plus universelle.
Alors là, effectivement, il y a quelque chose, on peut vraiment parler de rupture dans la recherche du plaisir. Et d'ailleurs, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ça ne concerne pas uniquement le plaisir sexuel. C'est vraiment très général.
Ouais.
L'être humain, c'est la seule espèce animale qui va être capable d'imaginer tout un ensemble d'activités hautement spécifiques
pour
ressentir
se procurer du plaisir.
Énormément de situations de plaisir. Et ça peut être, alors, par exemple, tous les sports de glisse, par exemple, où on va imaginer des skis, etc., pour descendre avec des bosses, etc. On va imaginer des balançoires, etc. Donc, vraiment modifier complètement notre environnement pour ressentir tout un ensemble de sensations extrêmement hédoniques. Et alors là, il y a l'exemple magnifique de la gastronomie. Imaginez tout ce qu'on est capable d'imaginer comme préparation culinaire
pour se donner du plaisir,
pour se donner du plaisir alimentaire, des cuissons, etc., des différents aliments, des mélanges.
C'est point de sophistication, là, on est vraiment chez l'homme.
Extrêmement sophistiqué, qui n'existe que chez l'être humain.
Ouais. Gita nous dit, l'animal ne peut s'accoupler que par période, l'homme en est toujours capable. Est-ce une perversion? Et qu'est-ce qui a corrompu la vie sexuelle de l'homme, Philippe Brenneau?
Alors, c'est pas perversion. Une perversion, non, je crois que c'est une spécificité humaine. C'est vrai que cette capacité permanente d'accouplement qui caractérise surtout les mâles de l'espèce humaine, parce que la sexualité féminine est plus complexe avec beaucoup de phénomènes conditionnels. Mais c'est très vrai que cette capacité permanente, elle n'est pas perverse. C'est Freud qui avait parlé de l'enfant comme un pervers polymorphe. Et par contre, elle doit être aussi tempérée. Parce que il faut évoquer, ça serait un autre débat, et qu'il n'y a pas obligatoirement de besoin sexuel. C'est-à-dire que même si une capacité permanente d'accouplement, il ne faut pas que ça soit pris comme une sorte de besoin qui doivent obliger, par exemple, la partenaire dans un couple hétérosexuel. Et je crois que c'est très important qu'il y ait le respect du partenaire.
Serge Wünsch, puisque les bonobos sont en couverture et au cours d'un accouplement torride sur la couverture de votre livre, En face à face, sur les origines de la sexualité humaine, petit détour justement par chez eux avec ce documentaire de Christian Bruyère.
Les chercheurs ont rapidement constaté que la sexualité joue un rôle important dans le comportement de ces singes. bien plus qu'une simple fonction de reproduction, elle fait partie intégrante du système social des bonobos.
Les femelles sont sexuellement réceptives tout au long de leur cycle génital. Et elles ne sont pas seulement réceptives aux mâles, mais aussi aux femelles, à tout moment de la journée.
Dans la société des bonobos, presque tout est permis. Leur activité sexuelle est sans commune mesure avec la nôtre. Le gonflement des parties génitales de la femelle est le signe certain qu'elle est disposée à avoir des rapports sexuels aussi bien avec un mâle qu'avec une autre femelle. Ces échanges sont au cœur de la cohésion du groupe. Ils sont l'expression de leur attachement et l'exutoire de leur tension, le lien même qui unit les bonobos entre eux.
Voilà, Serge Wünsch avec ce face-à-face qui est en photo donc de la couverture de votre livre. Et Philippe Bruno le disait en antenne, effectivement, ça a été un choc quand on a réalisé qu'effectivement, des primates non humains pouvaient aussi avoir une sexualité en face-à-face.
Voilà, parce qu'en fait, les bonobos, c'est l'espèce qui est finalement la plus proche de l'être humain. Et ils partagent un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire que leur sexualité, elle est vraiment très orientée par cette recherche des sensations hédoniques.
Ouais. Alors, la recherche du plaisir, évidemment, et puis donc on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, la culture, à ce point, influence aussi la sexualité humaine. Hein, et c'est ce qui nous distingue et nous singularise.
Ah oui, absolument, puisque ce qu'on peut dire avec l'être humain, c'est que la culture, c'est la culture qui va faire en sorte que elle va nous dire quand, comment, où, avec qui, est-ce qu'on va avoir des activités sexuelles, comment on va les avoir, etc. C'est-à-dire que ça va complètement structurer notre sexualité.
Philippe Bruno.
Oui, c'est vrai que cette diversité, c'est ce qui caractérise les humains. On le voit un peu chez Bonobo, mais cette diversité de comportements sexuels, elle est façonnée par les autorisations que nous donne la culture, et donc les interdits. Il y a des sociétés dans lesquelles énormément de comportements sont interdits, on va leur respecter. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est quelquefois interrogateur devant la liberté des sociétés occidentales aujourd'hui. On l'a vu avec la présence, la poussée du porno, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu déroutés. C'est-à-dire que maintenant qu'il n'y a pas trop de bornes et d'interdits, hormis un seul interdit, je dirais, aujourd'hui, c'est l'intrusion de la sexualité des adultes dans celle des enfants. Eh bien, effectivement, il y a des gens qui sont un petit peu gênés devant les possibilités qui s'offrent et qui vont dérouter quelquefois les couples. Parce que, est-ce que mon partenaire, ma partenaire, ont les mêmes codes? Est-ce qu'on va s'entendre sur ces possibilités? Ouais. Peut-être que je vais trop loin et on doit essayer de respecter l'autre.
Une diversité sexuelle qui perturbe peut-être de temps en temps, mais qui offre aussi beaucoup de possibilités pour trouver du plaisir, hein, Serge Wünsch.
Oui, mais pour bien montrer l'importance de la culture, ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple, nous, dans notre société, par exemple, le baiser, on va trouver énormément de plaisir dans cette activité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres sociétés, au contraire, le baiser va susciter du dégoût. Donc là, toujours cette importance absolument majeure de la culture.
Merci beaucoup à tous les deux. Comprendre les origines de la sexualité humaine, c'est aux éditions L'Esprit du Temps, et puis une histoire de la sexualité en bande dessinée, c'est Sex Story, aux éditions Les Arènes, pour Philippe Bruno. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis Philippe, on se retrouve le mois prochain pour une autre thématique sexuelle.
On parlera du vieillissement de la sexualité.
Merci beaucoup. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Villard.
De quoi parle-t-on dans Affaires Sensibles tout à l'heure?
Mais nous allons parler du Mediator, de l'affaire du Mediator, avec notre invité Martin Winkler, le docteur Martin Winkler, qui a beaucoup écrit sur les pratiques des labos et aussi sur les pratiques des médecins et leur rapport avec les patients. Voilà.
Et bien on se retrouve dans quelques minutes après les infos.